Bonjour, c'est Zoé de Louis. Devenir parent, c'est ouvrir la porte vers une nouvelle vie pleine de changements et vers un nouveau rythme qui est parfois compliqué à gérer. Comment continuer à sortir après la naissance de son enfant? Et comment trouver des lieux appropriés? Evian, l'eau parfaitement adaptée aux besoins d'hydratation des bébés qui soutient ce podcast, a recensé avec l'aide de jeunes parents les adresses idéales à Paris, Lyon et Marseille pour sortir avec ses enfants. Evian soutient les nouveaux parents dans leur mode de vie et leur approche de la parentalité. Un peu comme Fête des Gosses finalement. Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute.
En fait, mais je suis sûre, elles étaient belles. Mes copains ils disaient que ça c'est beaucoup trop fille. Alors moi, je voulais pas qu'ils disent ça sur mes chaussures parce que moi, je les aimais bien.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement?
Ils m'ont dit que ça faisait beaucoup trop fille et que c'était pas du tout joli.
La discussion que vous venez d'entendre entre Lou et sa mère Katia, qui travaille chez Louis Média, tous les parents y sont un jour confrontés. La première fois que cela arrive, ça nous ramène loin, au temps de nos propres déguisements en carton et des heures passées seules en classe verte. À la cruauté des enfants entre eux, celle qu'on a nous-mêmes parfois subie, parfois infligée, dont on a pu être témoin. Cette méchanceté, c'est au tour de nos enfants d'en faire l'expérience.
Oh non ! J'ai peur !
Moi, c'est ce que je redoute le plus pour Abel. Qu'il soit victime de la méchanceté des autres.
Oh non ! Voilà !
Et si ça devait arriver, j'aurais envie de lui dire « Tu sais, l'école c'est dur, le collège c'est l'enfer, et plus tu seras différent et plus on sera méchant avec toi. Mais tu verras, un jour... plus tard, tu trouveras ta place. » Mais ça ne marcherait pas. Déjà parce que moi-même, je ne suis pas sûre de pouvoir dire que j'ai trouvé ma place, et parce qu'à 6 ans, c'est inaudible. Un enfant de cet âge ne veut pas de mon discours sur la vie qui répare et sur les enfants dont on se moque et qui deviennent des rockstars. Alors que lui dire? Qu'est-ce que Katia peut bien répondre à Lou, qui ne veut plus mettre ses chaussures en public? Que peuvent les parents pour aider leur enfant qui rentre à la maison les yeux pleins de larmes parce qu'on s'est moqué de lui, qu'on l'a insulté, ou pire, qu'on le harcèle.
Bonjour, je suis Lou, je suis au CP, je vais vous raconter l'histoire de mes chaussures.
Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses.
Fête des Gosses!
Fête des Gosses!
Fête des gosses. Elles étaient comment tes chaussures?
Elles étaient noires avec de la fourrure de panthère des neiges.
Ils t'ont dit ça quand, à l'école?
À l'école, pendant la récré, toutes les récrés.
Ils t'ont dit ça, ils étaient plusieurs?
Vers 3 ou 4 ou 5.
Entendre Lou raconter ses moqueries, ça fend le cœur. Mais ce n'est pas grave pour autant, selon le psychiatre et psychothérapeute Philippe Haïm.
C'est normal qu'il y ait des moqueries entre enfants, et c'est normal pour plus d'une raison. D'abord, c'est normal parce que c'est une forme d'agressivité. L'humour est très souvent une forme d'agressivité, à part à la limite l'humour absurde, mais sinon l'humour est toujours avec quelqu'un en objet. C'est toujours une blague sur quelqu'un, sur un groupe de personnes, parfois sur soi-même, si c'est l'autodérision. Mais déjà, c'est un peu d'agressivité. Et l'agressivité fait partie des réactions normales dans la communication des êtres humains que les enfants découvrent.
Philippe Haïm est l'auteur de « Harcèlement scolaire, guide pratique pour aider nos enfants à s'en sortir », publié aux éditions Plon.
Par ailleurs, l'humour, c'est difficile à maîtriser. Il faut du second degré, il faut savoir maîtriser plusieurs niveaux de communication. Et c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Et comme toutes les choses qu'on apprend, on s'entraîne. Et donc, c'est un petit peu inévitable dans les rapports humains, qu'il y ait des rapports un peu d'hiérarchie, qu'il y ait des rapports un peu d'agressivité, qu'il y ait un peu de recherche chez les enfants des limites de la communication et de comment l'employer. Donc oui, c'est normal qu'il y ait des moqueries, oui. Quand on parle d'une moquerie, c'est d'arriver à quelque chose qui va faire rire les autres. Si je dis par exemple « Haha, on dirait une baleine, à chaque fois que tu passes par la porte, tu restes coincé. » Je fais une blague, j'essaye de rire, c'est pas une bonne blague, elle est pas drôle, mais j'ai essayé de faire rire, c'est ça une moquerie. Se moquer de quelqu'un, c'est rire à ses dépens. Par contre, il peut y avoir des insultes. T'es moche, t'es grosse, t'es bête, c'est des insultes qui visent à rabaisser l'autre. Et donc quand vous mettez des gens dans un même endroit, par exemple dans une école, il y aura fatalement de l'agressivité, qui pourra s'exprimer effectivement sous forme d'insultes rabaissantes, comme t'es moche, t'es nul, t'es gros, t'es bête, qui pourra s'exprimer sous la forme d'humour, de moquerie, de rigolade, qui pourra s'exprimer sous la forme de carrément de menace, peu importe. Mais en tout cas, oui, c'est fatal, ça arrivera fatalement. Et ça, on le sait quand on interroge les adultes. Est-ce qu'il y a un adulte, est-ce qu'il y a une seule personne qui peut dire « Moi, jamais on ne m'a agressé verbalement ». Ben non, tout le monde a déjà été agressé verbalement. Donc si ça nous est arrivé à tous, c'est que ça arrivera à nos enfants.
Vous pourriez arguer que ce n'est pas parce que ça nous est arrivé que c'est sain. Par exemple, ce n'est pas parce que notre génération prenait des fessées que c'est sain d'en donner. Mais être confronté à la moquerie, cela fait partie du développement des enfants, selon Philippe Haïm.
On peut dire que de toute façon, pour un enfant, c'est très important d'apprendre ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et un enfant a un seul moyen d'apprendre les compétences sociales, c'est par l'expérience. On le sait en tant que parent, il va faire des choses pour voir notre réaction, il va même parfois les refaire pour voir si on réagit de la même manière que la première fois. Il apprend les compétences sociales par l'expérience. On n'apprend pas les compétences sociales par la connaissance. On peut nous raconter tout ce qu'on veut sur une expérience relationnelle. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas vraiment ce que ça fait. Donc l'enfant apprend les compétences sociales par l'expérience. Et faire face à l'agressivité, voir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut, de quelle manière on peut ou pas prendre un peu le dessus sur l'autre, ou au contraire se faire avoir par l'autre, bah, c'est des choses qu'on apprend par l'expérience. Donc je dirais que ça a un rôle dans le développement de l'enfant, au même titre que tous les types d'interactions. C'est un type d'interaction très banal que nous apprenons par l'expérience.
Ça, évidemment, c'est tant que l'on se parle de moquerie et non pas de harcèlement. Et il est fondamental de distinguer les deux. Car si le harcèlement est malheureusement banal aussi, au point que selon une enquête menée par l'IFOP pour l'association Marion la main tendue, un collégien ou lycéen sur cinq a déjà été victime de harcèlement, il n'est pas, lui, un apprentissage normal de la vie sociale.
Le harcèlement, c'est une agression qui est petite dans son intensité, puisqu'on ne parle pas de blessure avec arme ou de violence sexuelle, on parle la plupart du temps de verbal. Et même quand on parle de harcèlement sur le plan physique, en général, c'est du harcèlement physique qui ne fait pas très mal, c'est des poussées, des bousculades. Si jamais ça se met à faire très mal, à être des blessures, on est dans les coups et blessures, on est dans autre chose. Donc, c'est des agressions qui sont modestes dans leur intensité et qui sont répétitives, d'accord, et qui sont blessantes. Une des manières de faire des agressions petites, répétitives et blessantes, ce sont des moqueries. C'est une des modalités du harcèlement.
Philippe Haïm rappelle donc que ce qui fait le harcèlement, c'est la répétition. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse le définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. C'est donc autre chose que la moquerie, qui, selon Philippe Haïm, est souvent liée à un manque d'empathie. On n'a pas tenu compte de la sensibilité de l'enfant, mais pas pour le heurter délibérément. La réaction des parents doit s'adapter à ce à quoi on a affaire.
La première chose, c'est de faire attention à ne pas dénigrer la souffrance de l'enfant. Un enfant, il souffre d'une insulte qui, à nous, nous paraît un peu bébé, un peu petite, un peu voilà. Et effectivement, on pourrait avoir un premier réflexe d'adulte qui serait de dire « Ah, mais ça va, c'est rien. Enfin, c'est nul de dire ça, écoute, franchement, voilà. » Donc, minimiser la souffrance de l'enfant serait une erreur à peu près aussi grande que dramatiser la souffrance de l'enfant et dire « Quoi ? Il a dit ça ? Mais c'est un harceleur, il faut absolument le punir, il faut l'exclure, il faut, à la limite, le mettre en prison. » C'est vrai que quand on a notre propre enfant qui souffre, quelle que soit la souffrance, on le sait tous en tant que parents, voir son enfant souffrir, c'est la plus grande des souffrances. On veut prendre sa souffrance à sa place, quoi. Tellement c'est horrible de voir son enfant souffrir. Et donc, quand un autre enfant fait souffrir le nôtre, on est souvent très en colère. Et on s'en veut un peu. D'ailleurs, on dit « Mais quelle colère j'ai contre un bout de chou de 8 ans, quoi, hein, finalement ?» Qui a plus l'air d'un bout de chou, mais d'un petit diable. Donc, les deux erreurs de base, c'est ça. Surdramatiser, nier la souffrance de l'enfant. La première chose, c'est lui dire « Ça a l'air de t'embêter beaucoup. » Vraiment, ça t'embête. Voilà. Je suis pas dans le « C'est interdit, c'est très grave, je dois agir à ta place. » Ce que je ferais dans les cas de violence physique grave, de violence sexuelle, etc., ça c'est évident. Je suis dans un cas où ça t'embête là. Là, ça t'embête ce qui se passe. Donc ça, c'est la première chose. J'en profite pour dire que avant les premières précautions qu'on va prendre, de ne pas dramatiser, de ne pas minimiser, les autres précautions à prendre, c'est de savoir exactement ce qui se passe. Si on me dit juste « on m'embête à l'école », moi, ma question, c'est toujours « qu'est-ce qu'ils font très exactement pour t'embêter ?» Je veux savoir exactement ce qu'ils font. Parce que justement, si jamais il y a un problème de violence objective grave, je veux pouvoir le détecter. Je ne vais pas m'amuser avec la communication si jamais il y a une agression plus grave pour laquelle il faudrait que j'intervienne immédiatement. Donc, qu'est-ce qu'ils te font exactement ? Qu'est-ce que tu as essayé de faire, toi, pour répondre ? Vraiment s'intéresser à lui, et puis faire preuve d'empathie. C'est vrai que c'est pas gentil, et je comprends que ça t'affecte. Ça, vraiment, la base.
Quand on n'a plus affaire à de la moquerie, mais à ce que Philippe Haïm appelle des violences objectives, c'est-à-dire des coups et blessures, alors l'intervention des adultes est nécessaire. En revanche, même s'il s'agit de harcèlement, Philippe Haïm considère que la victime est innocente, bien évidemment, elle n'est jamais coupable, mais qu'elle peut quand même faire quelque chose. Et c'est en ça que son approche se distingue de celle du psychologue suédo-norvégien Dan Olveus, à qui l'on doit le terme de « school bullying », qu'il introduit dès 1986 en Suède.
Il a travaillé sur ce sujet il y a très longtemps. C'est une approche qui n'intéressait pas tant que ça les gens. C'était un domaine de recherche assez peu connu, parce que les gens ne voyaient pas l'utilité de ce concept de harcèlement scolaire. Finalement, les psychologues disaient « mais on a déjà des concepts pour définir les relations agressives, l'agressivité entre dans des groupes, dans des systèmes. Qu'est-ce que ça va nous amener, ce concept supplémentaire ?» Les sociologues non plus n'y croyaient pas trop, parce qu'ils disaient « on a déjà un concept, c'est la domination sociale. Et dans tous les groupes sociaux, il y a des expériences de domination entre groupes, entre hommes et femmes, entre, on va dire, riches et pauvres, entre noirs et blancs. Enfin, il y a des systèmes de domination sociale dans les groupes humains. Il y en a toujours eu. Donc, qu'est-ce que nous amène ce concept de school bullying, de harcèlement scolaire ? 30 ans plus tard, à peu près, à la fin des années 90, il y a eu la tuerie de Columbine aux États-Unis. Et là, les psychologues scolaires américains ont commencé à paniquer, à se dire « mais il faut qu'on fasse quelque chose ». Finalement, ces enfants-là, au-delà de toutes les causes qu'on a pu imaginer, je sais pas moi, Marilyn Manson, les jeux vidéo, etc., les parents, tout ce qu'on veut, ces gamins-là, leur problème, c'est qu'ils étaient harcelés. Et ils l'ont dit, ils ont laissé des lettres, ils ont laissé une vidéo d'adieu. Ils ont dit « nous sommes harcelés, nous allons nous venger ». Et donc, ils se sont dit, ben, le harcèlement, ça fait des suicides, puisqu'il y a des gamins qui se suicident en disant que c'est parce qu'ils étaient harcelés. Ça fait de la violence envers les autres. Il faut qu'on fasse un truc, on a peut-être négligé le problème. Et à cette époque, toute l'équipe d'Olveus est arrivée en disant, mais nous, on a une solution. Nous, on a des programmes anti-harcèlement. Et du coup, ils se sont emparés de ces programmes et c'est devenu la norme aux États-Unis. Et ça a marqué les esprits dans tout le monde occidental. Tous les gens qui s'intéressent au harcèlement, même quand ils ne le savent pas, la plupart sont inspirés des approches d'Olveus. Par la suite, ses suiveurs ont fait du lobbying pour qu'il y ait des lois qui reprennent un peu les idées qu'il avait sur le harcèlement. Donc, il y a une loi anti-harcèlement dans les 51 États des États-Unis. Il y a une loi anti-harcèlement dans la plupart des pays occidentaux. Il y en a une en France depuis 2022, la loi Balanant, qui est une loi sur le harcèlement scolaire, qui en fait un délit spécifique.
L'approche d'Olveus, qu'on pourrait qualifier de punitive, repose sur un triptyque juridique. Protéger la victime, dénoncer la violence, sanctionner l'agresseur. En bref, il considère que la victime ne peut rien faire pour se sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Philippe Haïm, qui on le rappelle y adhère lorsqu'il y a de la violence physique, estime lui que pour les moqueries, les rumeurs, les exclusions, les insultes et même pour le harcèlement s'il n'est que verbal, cela n'est pas efficace, voire que cela peut aggraver le problème.
Pour moi, si vous avez une approche qui est centrée sur l'action des adultes dans le monde de l'enfant, vous donnez deux messages à l'enfant. Vous lui dites « je vais t'aider parce que j'ai de la compassion pour ta souffrance ». Et vous lui dites en même temps « tu es impuissant à le faire ». Et donc en fait, dans les cas où on n'est pas impuissant, cette approche court le risque d'aggraver le problème. Je dis pas qu'elle marche jamais. Si l'agresseur qui se fait punir se sent injustement puni, parce que lui il voulait juste rigoler, il va vouloir se venger de celui qui l'a balancé, et en fait, en croyant résoudre le problème, on l'aggrave. Donc pour moi, le problème principal, et là vraiment ça parle de développement de l'enfant, c'est que pour moi, aider un enfant à se développer, c'est lui faire acquérir des compétences. Et quand on fait à sa place, on l'empêche d'acquérir des compétences. Je pense qu'il y a une approche qui est moralement irréprochable, mais qui met en danger l'acquisition de compétences psychosociales. Et mon approche, je dirais, est peut-être moins morale. Elle n'est pas immorale. Et en tout cas, elle est centrée sur l'apprentissage de compétences par l'enfant pour qu'il apprenne à résoudre ses problèmes par lui-même. Et je crois que savoir qu'on est capable de résoudre des choses par soi-même, c'est quasiment la définition de la confiance en soi. Aucun harceleur n'est assez stupide pour aller vous embêter juste sous les yeux du surveillant. Où est-ce qu'a lieu le harcèlement ? Le harcèlement, il a lieu dans les couloirs entre deux cours, il a lieu dans les toilettes, il a lieu à la cantine où c'est tellement le boxon que personne ne peut surveiller tout ce qui se passe. Il a lieu sur le chemin retour de l'école, il a lieu quand les surveillants tournent le dos et on va appeler l'adulte pour dire « il me l'a dit ça, non c'est lui, non c'est lui, non c'est lui ». Et on va demander aux adultes de juger une scène qu'ils n'ont pas vue. C'est extrêmement compliqué. La réalité, c'est que quand l'enfant fera face au harcèlement, vous ne serez pas là. L'adulte ne sera pas là. Donc il faut qu'il apprenne à faire par lui-même. Je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que c'est la seule voie qui lui permet vraiment de s'en sortir. Mais attention, c'est pas une approche démissionnaire. C'est une approche où on est très présent et on apprend quelque chose et on s'assure qu'il l'a appris. Ça, c'est très important.
L'approche de Philippe Haïm repose donc sur l'idée que la résolution des conflits peut en partie venir des enfants eux-mêmes et que l'on doit les aider à trouver en eux les moyens de se tirer du pétrin dans lequel ils sont. Encore une fois, pas dans les cas les plus graves. D'ailleurs, un enfant dit rarement « sors-moi de là », mais « aide-moi à me sortir de là ».
Un enfant, il va dire « sors-moi de là » s'il a été très habitué par des adultes auparavant à ce que la solution à ses problèmes soit que quelqu'un d'autre agisse. S'il est habitué à ça, effectivement, il va le dire spontanément « mais sortez-moi de ce bourbier, j'y arrive pas ». Mais très spontanément, la première fois qu'un enfant subit un truc, s'il se sentait libre de parler, il dit « mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il arrête, en fait ?» Et il se sent un peu impuissant, un peu bête, parfois, en se disant « mais enfin, je lui ai rien fait. Pourquoi il fait ça ?» Donc oui, la vraie question de l'enfant, c'est « qu'est-ce que je peux faire ?» Il y a des fois où on va lui dire « il y a des situations où tu peux pas faire. Il va falloir que je fasse à ta place. Ça existe. » Effectivement, il y a des situations où je vais lui dire « il y a peut-être quelque chose à apprendre. »
Moi, jamais vu, tête de morue, tu me reverras, tête de rat. Sur mon balcon, tête de porc.
Tête de gosse.
Chez moi, tête de chamois. Marc bof, tête de bof.
Fête des gosses.
Marceau, tête de veau.
Fête des gosses.
Fête des caca gosses.
Alors, si c'est une blague, elle est de mauvais goût, hein.
Vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas gentil.
Katia a demandé à son fils comment il avait réagi, lui, après l'affaire des chaussures.
Après, j'ai attendu tout seul la fin de la récré, sans jouer. Et après, quand c'était l'heure de la nounou, et bah, j'ai attendu après. J'ai attendu le week-end pour le dire à papa et maman. C'était un peu difficile. Et du coup, après, j'ai décidé de les mettre que pour des fois où je vais dans des villes et qu'il n'y a pas mes copains, quand je suis vraiment sur le béton, pour pas les abîmer, pour que personne ne se moque de moi.
Et t'as pas voulu dire à tes copains que toi, tu les aimais, tes chaussures, et que
si.
Tu t'en fichais de ce qu'ils disaient ?
Oui.
Mais tu t'en fiches pas ?
Si, je m'en fiche.
Une des choses qu'on peut dire, par exemple, c'est que souvent les enfants disent « mais ce qui m'embête, c'est que c'est méchant. Il n'a pas le droit de dire ça. Il n'a pas le droit de dire un truc méchant. C'est pas gentil ce qu'il me fait. Plus ils sont petits et plus ils vont réagir comme ça, en vérité, avec des phrases comme ça, toutes faites, des grands principes. Mais il n'a pas le droit de dire ça, c'est pas vrai. C'est pas des chaussures de fille, c'est pas vrai. C'est des chaussures de garçon, pourquoi il dit ça ? C'est un menteur, c'est pas vrai. » Voilà. Et on voit bien d'où vient la souffrance. La souffrance, elle vient non seulement de l'insulte qui est faite, mais elle vient de cette croyance qu'il n'a pas le droit de le dire. Alors du coup, quand je lui dis « mais t'as pas le droit de dire ça », ben il a gagné. Qu'est-ce qu'il cherchait, lui ? Il cherchait à m'affecter. Si je lui dis « mais t'as pas le droit de me dire ça », ben il sait que je suis affecté. Je viens de l'informer que je suis affecté. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Ben il recommence. Et l'agression devient harcèlement parce que je suis affecté. Mais supposons que je réagisse autrement. Supposons qu'il me dise « t'as des chaussures de fille ». Et que je lui dise « ah, tu trouves que ça fait fille comme chaussure ? Ah, c'est marrant, c'était au rayon garçon, mais bah ouais, mais moi je trouve que ça fait chaussure de fille. Ah, ok. Bah écoute, tu peux penser ça, je sais pas, t'as le droit de le penser. Peut-être qu'ils se sont trompés dans le rayon, je sais pas, moi je les aime bien. Ah bah moi j'aime pas, moi je porterais pas des chaussures de fille. Hein. Ok, toi tu porterais pas des chaussures de fille. Moi je pourrais les porter. » Donc une des règles qu'on peut utiliser dans la méthode que je propose, c'est de se rappeler de ce principe de liberté d'expression.
La méthode de Philippe Haïm s'inspire des travaux d'Izzy Kalman, un psychologue scolaire américain qui utilisait le jeu de rôle pour apprendre aux enfants des principes basiques de psychologie, leur permettant de se défendre en cas d'insulte, de moquerie ou autre. Il ne s'agit pas, encore une fois, de rendre la victime coupable de ce qui lui arrive, mais de ne pas nier qu'elle peut agir.
Et donc, on pourrait résumer l'idée d'Izzy Kalman ainsi. On se moque de vous, on vous harcèle parce que ça marche. Ce qu'il faut, c'est que ça ne marche plus. L'essentiel, c'est donc de montrer à l'autre que l'on n'est pas affecté. Et c'est très différent du conseil que l'on donne souvent à tort aux enfants. Ignore-le, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, etc., etc.
Quand on dit à quelqu'un « ignore-le », c'est un des conseils les mieux intentionnés, mais en même temps, c'est un des plus mauvais conseils qu'on peut donner, puisque c'est une des façons d'aggraver la situation. Donc, il y a 5 façons d'aggraver la situation. Génériquement, l'idée, c'est « j'aggrave la situation si je montre à l'autre qu'il a gagné ». Comment je lui montre qu'il a gagné ? Parce que je suis affecté. Donc, à chaque fois que je lui montre que je suis affecté, il a gagné, et donc il recommence. C'est comme une machine à sous, tant qu'il y a des pièces qui sortent, j'en remets, je joue. C'est quoi ces 5 manières ? Alors, c'est facile à retenir, parce que j'ai fait un moyen avec les lettres de l'alphabet, c'est A, B, C, D, E, facile, tout le monde connaît son alphabet. 5 lettres, 5 verbes. Si vous faites ces 5 verbes, si vous récitez votre alphabet, l'autre est au courant que vous êtes affecté, donc il a gagné, donc il recommence. Le A, c'est arrête. Toutes les manières que j'ai de lui dire arrête. Arrête, c'est pas gentil. Arrête, t'es méchant. Arrête, c'est du harcèlement. Arrête, 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 ça m'embête. Ben, si je lui dis d'arrêter, c'est que je suis affecté. Si vous me dites un truc gentil, je vais pas vous dire d'arrêter. Donc, c'est que je suis affecté. Le B, c'est boude. Parce qu'effectivement, quand on dit à un enfant d'ignorer, déjà, il sait pas ignorer. Et en général, au lieu d'ignorer, il boude. Il va faire la tête, regarder en l'air, dire ouais, je m'en fiche de ce que tu dis, toi. Mais si je dis je m'en fiche de ce que tu dis, on voit que je suis affecté. Donc, si on voit que je suis affecté, on recommence. Et même s'il boude de façon un peu ridicule, sans faire exprès, il va être moqué. Le C, c'est contre-attaque. Si je contre-attaque, c'est que ça ne me convient pas, ce que vous me dites. Si je vous contre-attaque, si je vous contre-insulte ou si je vous frappe parce que vous m'avez dit quelque chose, bah, c'est que je suis affecté. Sinon, je ne contre-attaquerai pas, je ne contre-attaque pas mes amis. Donc, si je contre-attaque, c'est que je suis affecté. Si je m'énerve, si je crie, si je contre-insulte. Le D, c'est dénonce. Effectivement, si je vous dénonce, c'est que je pense que vous avez fait un truc vraiment pas bien. Et si je vous dénonce, vous allez le vivre comme une contre-attaque, comme une agressivité. Par exemple, si vous faites trop de bruit dans votre immeuble, vous préférez que votre voisin il vienne toquer à votre porte pour vous dire que ça fait trop de bruit, plutôt qu'il appelle d'abord la police. Si vous faites une erreur dans votre travail, vous préférez qu'un collègue vous le signale, plutôt qu'aller vous dénoncer au chef tout de suite. Personne n'aime être dénoncé, et en général, une personne dénoncée, elle est fâchée, elle a envie de se venger. Et enfin, le E, c'est évite. Et c'est des enfants qui savent tellement pas quoi répondre qu'ils partent en courant. Dès qu'ils voient arriver leur agresseur, ils partent. Alors ça fait beaucoup rire certains agresseurs, parce que si on les évite, c'est parce qu'ils font peur. Donc c'est qu'ils ont réussi à affecter l'autre, donc ils ont gagné. Si vous faites du ABCDE, sous quelque forme que ce soit, mais si vous faites une de ces 5 catégories de réactions, ça montre à l'autre que vous êtes affecté, il recommencera.
Il faut donc montrer qu'on n'est pas affecté. Cela ne veut pas dire que nous, parents, on doit faire comme si ça n'affectait pas l'enfant. Rappelez-vous, on commence par montrer de l'empathie. Mais la stratégie pour l'enfant, c'est de montrer activement qu'il n'est pas affecté. C'est exactement ce que fait Joseph, 5 ans et en grande section de maternelle, quand on se moque de ses grandes oreilles.
De dire oui, mais c'est les plus belles grandes oreilles du monde.
Ouais. Et tu peux dire quoi d'autre si on se moque de tes oreilles ?
C'est aussi pour mieux t'entendre.
Ouais, tu peux dire et alors qu'est-ce que ça fait ? On s'en fiche. Qu'elles soient grandes, mes oreilles.
Alors qu'est-ce que ça fait ? On s'en fiche, ils sont grandes.
Joseph a, sans le savoir, appliqué la méthode de Philippe Haïm. Ses copains ont le droit de penser qu'il a des grandes oreilles, et on s'en fiche. C'est vrai qu'elles sont grandes, ses oreilles. La liberté d'expression, c'est donc le premier principe du jeu de l'idiot, un jeu de rôle imaginé par Philippe Haïm. Mais avant de vous en parler, il faut rappeler dans quel cas ne pas utiliser cette méthode. Et ce sont justement toutes les situations dans lesquelles la première réaction doit être protéger la victime, dénoncer la violence, sanctionner l'agresseur. Ces situations pour lesquelles la communication ne sera pas efficace, pas plus que le jeu, ce sont les agressions graves, les vols, blessures, atteintes sexuelles ou divulgation de photos compromettantes pour les adolescents.
Le jeu de l'idiot, c'est une méthode pour apprendre les règles qui désamorcent le conflit. Les principales règles qui désamorcent le conflit, c'est les règles qui déstabilisent l'agresseur. Et il y en a deux, en gros, des règles principales pour déstabiliser l'agresseur. Il y a la règle de la liberté d'expression, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or, elle dit, au lieu de le traiter de la même manière qu'il te traite, c'est-à-dire en ennemi, tu devrais le traiter comme tu aimerais qu'il te traite, c'est-à-dire en ami. Attention, je ne dis pas qu'il faut être ami avec lui, il n'est pas gentil. Mais être amical avec lui. Si je suis amical avec lui, il va être suffisamment déstabilisé pour arrêter parce que c'est pas drôle et que je deviens une mauvaise machine à sous. De la même manière, si je le laisse parler. Par exemple, pour la règle d'or, ça peut être « Tiens, t'as vu ta gueule sur Instagram ? Non mais c'est quoi cette photo de profil ? T'as pas honte de mettre une photo de profil pareil, mais t'es trop moche ? Et si moi, à ce moment-là, je lui dis « Non, mais arrête de dire ça », ou si je lui dis « Ok, je vais changer ma photo de profil, d'accord », bon, là, j'ai perdu. Mais si jamais je lui dis « Ah bon ? Mais c'est marrant parce que toi, la tienne, elle est hyper stylée. Ben, comment t'as fait ? T'as utilisé un filtre ou... » Je lui ai quelque part presque fait un compliment, et puis ça s'arrêtera là parce que je ne suis pas du tout une victime marrante à embêter.
C'est donc une méthode pour apprendre aux enfants à désamorcer le conflit. Deux règles pour jouer. Respecter la liberté d'expression, tu as le droit de dire ce que tu veux, et rester amical. Et même si chaque moquerie ou insulte tire des cordes différentes, cette matrice va quand même permettre aux enfants de s'en sortir quelle que soit la situation et la teneur de l'attaque.
En fait, ça fonctionne à partir du moment où on respecte ces principes de façon répétitive. Si vous avez compris le principe qu'il faut autoriser les autres à penser ce qu'ils pensent et les traiter en amis et qu'ils finissent par arrêter, alors vous pourrez toujours créer des réponses qui conviennent. Et ça peut être des réponses extrêmement simples. La plus simple peut-être étant celle que je vous ai dit tout à l'heure. Ah bon, tu trouves ? Ben d'accord, tu peux dire ça. Ou à la limite, ah bon, mais pourquoi tu penses ça ? Par exemple, t'as des chaussures de filles. Ben, pourquoi tu penses que c'est des chaussures de filles ? Eh ben parce qu'elles sont en couleur. Ah, donc tu penses que les couleurs, c'est pour les filles. Ok, ben, tu peux penser ça. C'est peut-être le plus simple. Maintenant, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que ces réponses-là, le but, c'est pas les réponses. Le but, c'est que ça donne une attitude. Une attitude différente. Et c'est ça qui fait gagner le jeu.
Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir compris le principe. Il faut s'entraîner pour ne pas laisser l'enfant se débrouiller seul. Vous aurez beau expliquer le jeu de l'idiot à votre enfant, si vous ne jouez pas avec lui, il ne saura pas s'en servir à l'école.
Il n'y a aucun enfant qui, juste parce qu'on va lui dire « t'as qu'à dire ça » et ça marchera, non, ça ne marchera pas. Il faut le faire jouer. Il faut lui montrer comment ça marche.
Ok, alors, est-ce qu'on peut faire le jeu, nous ?
Oui,
alors, le jeu, bien sûr. Donc, pour que ce soit le plus compréhensible, quel rôle il faut qu'on joue chacun ? Genre lequel ?
Vous m'insultez sur le registre que vous voulez. Moi, je dois vous faire arrêter de m'insulter par mes réponses. Si vous me réinsultez sans cesse et que vous avez sans cesse un truc à dire et que moi, j'arrive pas à vous arrêter par mes réponses, vous avez gagné. Si par contre, par mes réponses, j'arrive à vous donner envie d'arrêter de m'insulter, c'est moi qui gagne. Donc là, vous m'insultez sur le registre que vous voulez.
Et là, ça va être très gênant parce que moi, je ne sais pas comment s'insultent les enfants. Effectivement, préparez-vous à entendre une adulte qui essaye de singer le vocabulaire d'un enfant de 10 ans pour les besoins d'un podcast. C'est moche et pathétique, mais c'est pour l'exemple. Tu l'as trouvée dans une poubelle, ta chemise ?
Mais pourquoi tu dis que je l'ai trouvée dans une poubelle ? Enfin, c'est pas gentil.
Bah, elle est dégueulasse.
Mais c'est pas vrai, elle est très bien, ma chemise, enfin, voyons. Et puis, elle est propre en plus, n'importe quoi.
Ouais, je sais pas, moi, mon père, il a la même.
Mais non, mais n'importe quoi. Et toi, t'as vu ton pull, toi, d'abord ? C'est même pas beau. Donc là, on peut dire que j'arrive pas à vous arrêter. Et que vous gagnez, là. Puisque là, en plus, je deviens ridicule. Donc si on continuait, vous auriez encore des insultes à dire, je pense.
Oui, probablement. Et puis, il y aurait probablement peut-être des gens autour de moi
qui commenceraient à trouver ça drôle. Ouais. Il y aurait des gens autour qui commenceraient à trouver ça drôle. Et ça peut continuer longtemps comme ça. Et alors, avec les enfants, là, vous prenez une situation fictive, mais avec les enfants qui vivent la vraie situation, ils peuvent être intarissables. Ils vont me dire « Ah, t'as des chaussures de fille ». Je vais dire « Mais arrête, enfin, pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est des chaussures de fille. Mais pourquoi, arrête, t'es pas gentil de me dire ça. Ah ouais, je suis pas gentil, espèce de fille. Mais arrête, je vais m'énerver si tu continues, je vais aller le dire au directeur. » Ben c'est ça, va le dire au directeur. En plus, t'es une fille et t'es un petit bébé en plus. Et là, dans le contexte cours d'école, c'est intarissable. Donc là, on a vu que vous avez gagné et vraisemblablement, si quelqu'un a décidé de parler et que je dois l'arrêter seulement par mes réponses, ben, je peux pas le faire taire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rejoue. Même registre, vous repartez sur la chemise, mais vous pouvez partir sur ce que vous voulez après. Sauf que cette fois, je vais gagner.
On recommence donc, et ça ne s'améliore pas de mon côté.
T'as l'air d'un bolos avec ta chemise.
Ah, t'aimes pas ma chemise ?
Bah, je sais pas, on dirait que tu vas à l'église.
Ah ouais ? Ah, c'est marrant. Moi, j'aime bien cette chemise. Tu aimes pas ?
T'as l'air con avec, quoi.
Ah d'accord. Ah, tu trouves que ça me donne l'air con ?
Bah ouais, okay. T'as l'air tout coincé et tout, mais un t-shirt, quoi.
Moi, j'aime bien le tien de t-shirt, par contre, il est pas mal. Ouais.
Bah ouais, il est pas mal. Mais toi, t'as l'air d'un con avec ta chemise.
Ok. Bah écoute, si tu trouves. Je sais pas, moi j'aime bien, mais bon, je comprends que t'aimes pas.
J'ai mon petit cousin, là, il a 6 ans, il va au caté, il met la même.
Ah ouais, c'est vrai ? Et lui, il aime bien ?
Bah il aime bien, c'est un petit con.
D'accord.
Comme toi.
Ok, bah tu peux le dire si tu veux.
Allez, mais...
Là, c'est difficile.
Ouais, et là, j'ai perdu.
Là, vous avez perdu parce qu'au bout d'un moment, vous avez plus grand-chose à dire. On pourrait encore continuer, mais au bout d'un moment, dans une situation réelle, là, c'est pas drôle du tout. Donc, si je vous demandais laquelle des deux fois était la plus marrante à faire, bah, c'est sûrement la première, parce que j'avais l'air ridicule. Si je vous demandais qui a gagné la première, la deuxième fois, bon ben là vous avez perdu. Mais si je vous demandais qui avait l'air d'un idiot la première fois, ben c'est moi, j'avais vraiment l'air d'un idiot. Qui avait l'air d'un idiot la deuxième fois, ben c'est vous, vous aviez l'air bête à continuer à vous acharner, à aller chercher le petit cousin et machin, et sans que ça marche. Et finalement, laquelle des deux fois vous aviez le plus envie de recommencer à m'insulter ou de vous moquer de moi, laquelle des deux fois c'est plus attirant pour d'autres dans la cour de venir me regarder? Et voilà, qui a l'air con finalement? Et puis même, je peux aller plus loin, laquelle des deux fois j'étais le plus respectable? Et bien finalement, j'étais beaucoup plus respectable la deuxième fois. Et ça, c'est bizarre. La première fois, je ne me suis pas laissé faire, je ne vous ai pas laissé m'insulter, je me suis défendu. Et pourtant, j'étais moins respectable que la deuxième fois où je vous ai autorisé à m'insulter. Voilà. Et donc, ça fonctionne comme ça.
Plutôt que de continuer à m'écouter m'enfoncer, je vous propose d'essayer de jouer avec votre enfant. Philippe Haïm me l'a répété, cette méthode n'est pas infaillible et probablement pas adaptée à tous les enfants, mais elle leur donne des clés. Parce que pour l'instant, sur les 120 propositions du rapport de mission gouvernementale pour la lutte contre le harcèlement scolaire, aucune n'ambitionne de donner des compétences aux victimes. Il n'est pas responsable de ce qui lui arrive, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien faire. Et le docteur Philippe Haïm propose sa méthode comme un complément des initiatives mises en place au niveau national pour lutter contre le harcèlement. En France, le programme PHARE propose d'appliquer la méthode de la préoccupation partagée. C'est une approche non punitive dont le but est de désamorcer la violence de groupe. Un intervenant extérieur va essayer de trouver de l'aide au sein du groupe de harceleurs pour casser l'effet de groupe. La méthode s'inspire de la justice restaurative que vous avez peut-être découvert dans le film « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Herry. Et donc, quand les leaders n'ont plus de suiveurs, le harcèlement a des chances de s'arrêter. Le harcèlement est un phénomène complexe, il n'y a pas une seule réponse. Celle que vous avez entendue dans cet épisode ne se targue pas d'être la plus morale, juste la plus pragmatique. Si vous l'appliquez avec vos enfants, écrivez-nous ou envoyez-nous une note vocale à hello@louismedia.com pour nous dire comment ils l'ont vécu et si cela les a aidés dans leur vie scolaire. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses, une production Louis Média. Cet épisode a été réalisé par Anna Buis. La musique est de Jean Thévenin. À très bientôt.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.